Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Made by Binge Audio.
Des morts en masse. Des centaines de milliers de victimes sont annoncées chaque année pour avoir pris des faux médicaments. Les plus alarmistes parlent de pandémie mondiale. Si les pays occidentaux sont concernés principalement par des produits qui permettent d'augmenter les capacités intellectuelles, musculaires ou sexuelles, dans les pays en voie de développement, ce sont les médicaments du quotidien, les médicaments essentiels qui sont susceptibles d'être falsifiés ou de qualité inférieure. S'il y a du faux, il y a des trafiquants. Donc, des transports en secret, des transactions discrètes, des flux de capitaux, des laboratoires clandestins, des chimistes véreux. Toute une chaîne illégale que vont remonter les enquêteurs du monde entier. Tout trafic reste sous l'action de son démantèlement par les autorités. À moins que l'on ne souhaite pas vraiment connaître le point de départ de certaines chaînes criminelles. Aminata Touré, ex-ministre de la Santé au Sénégal.
Il faut se rappeler que l'Institut de recherche anti-contrefaçon de médicaments, l'IRCAM, estime que pour 1 000 dollars investis, on peut obtenir 500 000 dollars. C'est quand même un des taux de rentabilité en termes de criminalité les plus importants. Et ça crée également des mafias.
Street Médoc. Dans l'arrière-cour du Big Pharma.
Dans les pays en voie de développement, et tout particulièrement ceux d'Afrique de l'Ouest, une quantité importante de médicaments illicites se retrouve dans les marchés formels comme informels. On entend par marché formel les pharmacies, les hôpitaux ou les dispensaires, et comme informel, les marchés de rue. Le directeur sûreté pour l'Afrique du géant français Sanofi, Michel Seba, raconte la nécessaire lutte contre ce business souterrain.
C'est un marché qui quand même représente 200 milliards de dollars par an, avec des bénéfices qui sont totalement colossaux. Pour 1 000 dollars investis dans les faux médicaments, vous pouvez raisonnablement en tirer un bénéfice entre 200 et 500 000 dollars. Si on compare ça avec le trafic de drogue, hein, pour 1 000 dollars, a priori, c'est 20 000 dollars de bénéfices. Bon, je ne sais pas s'il faut citer ces chiffres-là, enfin du moins la deuxième partie, faire le comparaison avec le trafic de drogue, je ne voudrais pas contribuer à lancer des vocations sur les faux médicaments. Dans les grosses quantités, on est sur un trafic international. On est sur des réseaux de crimes pharmaceutiques qui sont bien organisés, mais qui sont liés à l'offre et à la demande. Les connexions se font à travers aussi les diasporas africaines dans les pays du monde entier, et en Chine en particulier. C'est comme ça, d'ailleurs, se font les connexions.
Et on voit bien que cette manne financière peut d'ailleurs générer des risques pour la stabilité des pays. Il y a non seulement l'impact sur la santé, mais également sur la sécurité des États, puisqu'on a établi des liens entre les organisations criminelles, terroristes et le trafic de faux médicaments.
Au sein de la Fondation Brazzaville, le juge Jean-Louis Bruguière, engagé dans le combat contre le faux médicament, a fait du financement du terrorisme un argument de lutte.
Aujourd'hui, la porosité existante entre le crime organisé transnational et le terrorisme n'est plus à démontrer, comme le fait que les organisations terroristes s'alimentent financièrement par des trafics de tout genre et par la contrefaçon de médicaments, même si ce n'est pas très visible. Il y a des éléments non documentés, mais connus, sur le fait que les faux médicaments, aujourd'hui, financent le terrorisme. C'est documenté, connu pour le Hezbollah, beaucoup moins pour les réseaux islamistes radicaux.
Le financement du terrorisme.
Une réalité, assure le juge Bruguière. Un argument massu pour une lutte répressive puissante. Pourtant, d'autres spécialistes peinent à trouver des affaires démontrant cette réalité. À commencer par ceux de l'Organisation mondiale de la santé, de l'aveu même de Pernette Bourdillon, analyste à l'OMS à la tête d'une équipe qui travaille justement contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés.
Alors l'OMS n'a pas un mandat d'investigation, donc on n'a pas forcément ces données-là. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu dire, sur laquelle j'ai des anecdotes, mais sur laquelle je n'ai pas de données probantes. J'adorerais avoir des données probantes. J'ai souvent entendu dire, mais je n'ai jamais eu des données probantes là-dessus, que des réseaux terroristes se finançaient avec des faux médicaments. C'est quelque chose que j'entends revenir souvent, mais je n'ai pas la preuve.
L'anthropologue Karine Baxer, qui travaille sur ces questions, ne voit pas plus de terroristes que l'OMS.
Et sur les terrains sur lesquels je travaille, c'est plus la question de la malfaçon qui pose problème que la question de la falsification. Et donc c'est souvent cette question de la falsification qui est mise en avant, justement avec soi-disant des organisations mafieuses, terroristes, etc. Et a priori, ça, sur le plan santé publique, ce serait un phénomène, en tout cas, moins préoccupant que la question de la malfaçon. Mais effectivement, c'est beaucoup moins médiatique que les questions de falsification, où on peut imaginer un petit peu, on peut un peu avoir tous les fantasmes derrière cette question des médicaments, avec la question des armes, avec la question de la drogue, avec la question du terrorisme, alors que, bon, a priori... À travers plusieurs rapports qu'on peut lire ou quoi, il n'y a quand même vraiment pas de lien entre ces différents phénomènes. Mais la question de la falsification reste quand même, d'après moi, ce que j'avais pu voir, autour de professionnels de la pharmacie.
Le chercheur indépendant Éric Prissois a travaillé pour l'IRACM sur les trafics illicites de médicaments.
Merci. Donc, si vous voulez, je voudrais une petite typologie des organisations criminelles que j'ai pu observer, en tout cas sur les principales zones dont je vous ai parlé. Donc, il y a ces petites organisations de 2 à 5 personnes qui sont des petites structures et qui sont tout à fait symboliques de la démocratisation des outils informatiques, mais aussi des outils d'impression, de packaging. Ça, c'est un premier risque. Puisqu'en fait, chacun peut aujourd'hui, théoriquement en tout cas, devenir un petit contrefacteur. Le deuxième type d'organisations criminelles qui sont les plus visibles sont les organisations de 10, à peu près 10 personnes, qui peuvent être de profils un peu variés. Alors il y en a qui sont liés au grand banditisme, qui a pu à certains moments se mettre sur ce type d'opportunités. Mais la plupart des organisations de taille moyenne sont des organisations qui sont licites, c'est-à-dire intimement liées au réseau de distribution pharmaceutique. Des importateurs, des grossistes occidentaux qui ont fait des activités licites et illicites qui rendent très difficile en fait la preuve de leur préjudice en fait. Donc ça sont les organisations déjà de taille pas si imposante, mais ça présente quand même un vrai risque. Donc on est plutôt sur une criminalité, comme je l'avais dit, en col blanc, qu'une criminalité au sens fantasmagorique comme on a parfois l'impression qu'on entend parler ici ou là. Voilà.
Une criminalité en col blanc.
Ce n'est pas là le discours habituel, plutôt fait de trafiquants qui sont de mèche avec les cartels de la drogue et autres banditismes plus ou moins importants. Une interrogation qui n'a pas manqué de se poser à certains chercheurs.
Je suis chercheur en sociologie à l'IRD, où je suis directeur de recherche. Au tout début, quand je me suis dit « je vais travailler sur les faux médicaments », je rêvais un petit peu d'entrer dans des filières, de suivre donc des bandits, des gens qui allaient faire du commerce Et en fait, très rapidement, les gens qui étaient mes interlocuteurs à l'époque, quand j'aurais parlé de ce problème, j'ai réalisé que c'était pas du tout leur approche. Ils disaient « Mais non, t'es complètement idiot. Ok, tu veux travailler sur des bandits qui font du trafic ?» Ça existe, tu en trouveras peut-être, c'est pas toujours très compliqué. Par exemple, en Inde, c'est pas compliqué à trouver. Mais en fait, ça n'a aucun intérêt de le faire, ou plutôt, ça peut être aussi dangereux d'approcher le problème comme ça. Regarde-le plutôt en réfléchissant à « Mais pourquoi est-ce qu'il y a des acteurs qui ont intérêt à te faire penser que les faux médicaments, c'est ça ? C'est des bandits, c'est des réseaux de criminels. » Encore une fois, je nie pas que ça existe, je suis pas en train d'être complètement relativiste, mais c'est juste que c'est mineur par rapport au... à la somme des intérêts qui sont en jeu derrière ça.
Les médicaments illicites sont vendus sur des marchés informels que l'on trouve dans la plupart des villes d'Afrique de l'Ouest. La répression semble alors tout bonnement inévitable.
Bonjour.
Bonjour Alphonse. Tu vas interviewer le ministre de la Sécurité du Togo, je crois, hein ?
Oui, j'ai rendez-vous avec le ministre de la Sécurité du Togo. Nous avons rendez-vous cet après-midi justement pour parler du rôle du ministère justement dans le contrôle et de la vente de ces médicaments dans les marchés.
Tu pourras lui demander quelles sont leurs actions sur la répression.
Oui, ça fait partie de mon protocole. Le gouvernement, par le biais du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, procède souvent au contrôle des marchés, à la saisie de ces médicaments, pas seulement sur les marchés, mais également des lots qui viennent par les frontières ou par le port. Donc, la douane les saisit. Donc, justement, je lui demanderai de nous parler de la répression et pourquoi cette répression est de mise.
Général Galiard Damham, ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Togo.
Monsieur le ministre, quand vous arrêtez les médicaments, est-ce que vous arrêtez aussi les acteurs, ceux qui viennent ou apportent les médicaments sur le terrain, ou vous allez même sur le marché, les bonnes dames qui en vendent? Quand vous arrêtez, vous saisissez leurs médicaments, qu'est-ce que vous faites?
On saisit les médicaments, on fait une procédure qu'on adresse à la justice. Je vous ai dit aujourd'hui, tout est centralisé au niveau de l'Office central de répression. Mais chaque saisie fait l'objet d'un PV, d'un procès verbal qu'on adresse au parquet. La personne est présente, c'est vrai, il y a très peu de condamnations.
Très peu de condamnations.
C'est une constante, comme le confirme Éric Prissois.
Dans les opérations d'Interpol, on vous dit, voilà, on arrête tant de personnes, on a saisi tant de médicaments, mais c'est très approximatif. Moi, j'apprends, notamment en Afrique, que la quasi-totalité des gens interpellés sont relâchés.
Mais pourquoi obtient-on si peu de résultats ?
Les sources, finalement, dans la contrefaçon de médicaments manquent.
Fabrice Rizzoli, docteur en sciences politiques, spécialiste de la grande criminalité, fondateur et président de l'association CRIMALT.
Mais parce que quoi ? Mais parce que je pense qu'en fait, les enquêtes, la plupart du temps, ne vont pas au bout, elles ne vont pas à l'origine de la production. Prenons l'exemple du travail que fait remarquable Europol dans ce domaine. Ils se sont un peu spécialisés là-dedans, ça fait 11 ans qu'ils font le truc Pangea, là. D'ailleurs, c'est grâce à leur savoir-faire depuis 11 ans qu'ils ont pu intervenir très vite à la crise du Covid et avoir saisi des faux masques, des faux gels hydrauliques en masse, avant même le confinement en France. On en a saisi parce qu'ils avaient des process depuis 11 ans. Comme quoi, d'ailleurs, quand la répression s'organise, ça marche. Mais le problème, c'est qu'on saisit énormément de produits contrefaits. Mais on ne va pas faire le procès à l'usine en Inde. D'abord, l'Inde vous dit salut. Hein. Et puis, de toute façon, ça serait complètement fou. C'est-à-dire qu'on risquerait de tomber sur les usines des laboratoires pharmaceutiques. On s'appuie sur des compétences et que derrière, il y a certainement des organisations criminelles, mais les enquêtes ne vont pas au bout. On fait beaucoup que saisir.
C'est que faire une enquête internationale n'est pas si simple.
Je pense quand même que si on cherchait, on trouverait beaucoup plus d'organisations criminelles, mais alors là, c'est une enquête judiciaire, faut comprendre. Elle devient internationale par définition. Le médicament, il a passé plusieurs frontières. Vous savez bien que les justices sont souveraines, qu'elles ont énormément de mal à coopérer, il faudrait la contribution de tous ces pays. Vous n'avez pas comme ça l'aide de l'Inde. Le médicament passe par l'île Maurice, parce que l'île Maurice, c'est un paradis fiscal extrêmement sophistiqué, où la grande multinationale peut ouvrir sa boîte. ne pas payer d'impôts. À la fois, c'est du tax ruling et du blanchiment. On ne peut pas payer d'impôts, mais dans le conseil d'administration, il faut qu'il y ait un Mauricien. C'est dans la loi. Les Mauriciens, ils vont faire leur enquête. Ça ne va pas les arranger. D'abord, il y a une usine qui paye un tout petit peu d'impôts sur l'île Maurice. Vous imaginez, magistrat français, il doit remonter son enquête, il doit faire des commissions rogatoires. Déjà, en Europe, c'est très très long. Et en plus, il doit passer par l'île Maurice et l'Inde. Je vous passe que le capitaux arrive en Suisse, ou à la City, etc. C'est des commissions rogatoires en Angleterre. Ben, c'est compliqué de faire ces enquêtes au long cours. On a des informations, on fait de la veille, peut-être des informateurs de temps en temps, la police ne communique pas là-dessus, et elle fait des saisies, en masse. Mais on ne fait pas l'enquête judiciaire qui permettrait de remonter toute la filière.
Peu d'affaires, peu de condamnations, de nombreuses saisies dont on ne connaît pas souvent le devenir, et pourtant des chiffres et des chiffres qui se répètent en boucle. Mathieu Kay, chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, donne un exemple, le fameux 1 sur 10.
L'OMS, dans un rapport qui a 2 ans, avait parlé d'un médicament sur 10 qui serait un faux médicament dans les pays d'Afrique subsaharienne. Il faut toujours regarder un petit peu la genèse de ce genre de chiffres. En fait, en disant cela, le rapport de l'OMS s'appuyait sur une compilation de différentes études, donc de la plupart des études disponibles sur ce problème, mais qui sont des études dont la méthode principale consiste à faire des échantillonnages de médicaments sur la base du soupçon. C'est-à-dire, je vais dans une pharmacie, plutôt que de prendre au hasard des médicaments, enfin, ce qui serait un échantillonnage, disons, normal, entre guillemets, je prendrai dans, disons, 100 pharmacies différentes, 1% des médicaments disponibles, je les teste et je regarde s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. C'est pas ce qui était fait. Ce qui était fait en général, la méthode principale, ça consiste à aller à un endroit, à juger est-ce que le médicament a l'air bon ou pas bon, à saisir, à échantillonner ceux qui éveillent mes soupçons, et ensuite à les tester. Mais c'est évident que sur cette base-là, on va forcément avoir plus de mauvais médicaments que si on avait fait un échantillonnage randomisé. Typiquement, l'IRASEM, quand je les ai rencontrés, c'est ce qu'ils disaient. Ils le savent très bien que les chiffres qu'ils font circuler ne sont pas de bons chiffres, mais eux, ils se sentent investis de la mission de faire connaître le problème des faux médicaments au pouvoir public, à la population. Donc, ils vont se saisir de n'importe quel chiffre imprécis qui circule pour faire avancer leur cause. Et le problème, c'est la définition de leur cause. Il aurait peut-être fallu qu'ils réfléchissent à qu'est-ce qui est vraiment important dans ce cas-là. Est-ce que c'est de défendre l'accès du plus grand nombre à des médicaments de qualité ou est-ce que c'est de défendre les intérêts d'industries qui veulent faire plus de bénéfices?
Il y a une différence entre la contrefaçon et le faux médicament.
La contrefaçon, en fait, c'est un produit qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché sur le territoire dans lequel il est distribué.
La contrefaçon, c'est l'imitation et la reproduction sans avoir l'autorisation. L'écoulement des stocks légaux va choisir de les écouler sur le marché illégal. On n'est plus dans la contrefaçon, on est dans la contrebande. C'est le fait de passer la frontière illégalement, etc. Mais le produit, lui, il a été fabriqué légalement par la multinationale.
Petit à petit, il a été décidé, notamment par l'OMS, de ne plus utiliser ce terme contrefaçon qui était trop polémique. Et du coup, petit à petit, d'amener le terme faux médicament. Mais en fait, derrière ce terme, on ne sait toujours pas vraiment de quoi on parle.
La définition même du faux médicament a longtemps été fluctuante. Quelles sont les situations qui font que les médicaments sont parfois illicites sur le marché ?
Il y a eu tout un travail au sein de l'OMS compliqué, avec tout un comité qui travaillait, avec des représentants des différents pays autour du médicament, et donc avec des tensions entre, globalement, les représentants des pays producteurs de médicaments du Nord, on va dire, ou de l'Occident, et puis les producteurs de génériques du Sud ou des pays émergents. Et finalement, il a été décidé d'introduire une définition assez complexe autour de falsifiés, sous-standards, mais donc ça devient une définition assez compliquée.
L'OMS a voulu, à juste titre, donner une définition du faux médicament. Sa définition, c'est médicament falsifié ou sous-dosé pour vraiment faire une séparation avec la contrefaçon. On parle souvent de contrefaçon de médicaments. Mais simplement pour faire une différence entre une problématique de santé publique avec une problématique de propriété intellectuelle.
Un produit falsifié, c'est un produit dont l'identité, la composition ou la source est représentée de façon trompeuse, délibérément ou frauduleusement. Donc il y a une vraie notion d'intention.
Un médicament, il peut être illicite ou il ne devrait pas être sur le marché dans plein de situations différentes. Parfois, c'est un médicament qui est produit par un fabricant en toute bonne foi, mais le contrôle à la qualité du médicament a été mal réalisé et il y a des informations dont on ne dispose pas et qui font que le médicament peut être dangereux. Parfois, c'est un médicament qui est de bonne qualité, qui a été produit dans de bonnes conditions, mais il s'avère qu'il est encore sur les étagères d'une pharmacie alors qu'il est périmé. Et ça, c'est un cas qui arrive très souvent, notamment dans des pays où, en fait, l'approvisionnement du médicament, il est assez chaotique et assez complexe. Un médicament, il peut être aussi interdit s'il est de très bonne qualité, fabriqué par le bon fabricant, mais s'il est vendu par un acteur qui n'a pas l'autorisation à le vendre.
Des trafiquants, mais pas tant que ça. Des faux, pas si faux, et de l'illicite qui inonde les marchés légaux. Que se cache-t-il derrière ces guerres de définition ? On va se rendre compte que le marché informel n'est que la partie visible du médicament falsifié.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.